Nous venons vous rendre visite en règle générale une fois par an. Comme ça, nous pouvons être exhortés, édifiés par les témoignages qui sont donnés. On voit que le Seigneur est à l'œuvre au milieu de vous. Que le nom de l'Éternel soit béni. Gloire à Jésus. C'est toujours une grâce, cher Marcelin, de prêcher l'Évangile à tellement d'endroits. Le dimanche dernier, j'ai prêché l'Évangile à Bruxelles. Le dimanche avant, j'ai prêché l'Évangile en Caroline du Nord, aux États-Unis. Et le dimanche avant, j'ai prêché l'Évangile à Montréal, au Canada. Et j'ai des occasions de me rendre par-ci, par-là pour rendre témoignage que Christ est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Et il va le faire maintenant parce qu'il est vivant. Tout ce dont il a besoin, c'est un peu de foi de notre part. Un jour, Jésus a dit, si votre foi est petite, comme le plus petit grain de l'univers, vous serez déjà capable de transporter les montagnes. Donc la foi, c'est un produit puissant. Vous savez, le médicament n'a pas besoin d'être gros comme ça pour qu'il soit capable de guérir. La plus petite gélule peut faire des effets dans le corps. Amen. Eh bien, notre foi est comme ça. La plus petite gélule de foi, et cela suffit pour que vous puissiez recevoir ce que vous attendez de votre Dieu. Dieu est bon. Gloire à Jésus. Alors, je voudrais, comme vous le savez, notre ministère est accompagné de l'Écriture parce que nous pensons que c'est important de soutenir notre travail, notre prédication, parce que vous pouvez lire à la maison afin que vous soyez fortifiés. Et donc, nous avons encore ce livre que vous connaissez, « Vaincre le lien le plus difficile à vaincre ». Eh bien, vous pouvez le vaincre. Et il y a des prières qui sont proposées à la fin de chaque chapitre pour vous permettre de comprendre le lien et en même temps le vaincre. Donc, c'est un livre qui est disponible. Nous avons des ennemis visibles, nous avons des ennemis invisibles et nous devons avoir la meilleure attitude dans notre cœur. Parce que si nous n'avons pas la bonne attitude, eh ben, nous risquons d'affronter les ennemis de la mauvaise manière. Vous vous souvenez, Jésus-Christ, notre Sauveur, avait beaucoup d'ennemis sur la terre, mais son attitude a fait la différence. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il avait toujours une attitude particulière et je suis certain que vous trouverez des bons conseils. Il y a aussi des CD, des prédications qui sont proposées. Vous serez les bienvenus à la table d'Émilie, là derrière à la sortie. Comme ça, vous pouvez voir ce que vous pouvez trouver. Je voudrais aujourd'hui aborder un peu les esprits particuliers. Les esprits particuliers. Au fait, les esprits particuliers sont des esprits que l'ennemi utilise pour rendre notre journée, pour rendre notre vie terrestre la plus amère possible. Parce que Satan a une dent contre nous. Et pour quelle raison? Souvent, on n'en parle pas. Pourquoi Satan nous déteste tant? Nous lui avons fait aucun mal. À ce que je sache, lui est un esprit, nous sommes chair et sang. Alors pourquoi s'en prend-il tant à des hommes, lui qui est un esprit? Voici la réponse. Nous l'avons remplacé. Nous l'avons remplacé dans le cœur de Dieu. Et nous l'avons remplacé dans le service de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Satan, à l'époque où il s'appelait encore Lucifer, c'était un joli nom au fait au ciel, Lucifer. Ce n'était pas une injure. Mais vous savez, quand on s'éloigne de Dieu, même le plus beau nom devient le plus vilain. Il s'occupait des louanges. Il s'occupait de la célébration au ciel. Ils étaient trois archanges. Il y avait le porteur de messages, Gabriel. Il y avait le guerrier, Michael. Et il y avait celui chargé des louanges, Lucifer. Mais Lucifer n'a jamais été remplacé par un ange au ciel. Son poste est resté vacant. Et pourquoi? Parce que Dieu a décidé de remettre l'office, le ministère, le travail de Lucifer aux hommes et aux femmes que son fils allait sauver. Comprenez bien ceci, qu'un ces jours-là, alors que Lucifer quitte le ciel et s'empare avec une bonne partie des anges, très vite après, le Père réunit sa Trinité et il dit, il faut que l'un d'entre nous voyage. D'après certains théologiens, ils pensent que les trois archanges correspondent à la Sainte Trinité. Qu'il y a Michaël qui est auprès du Père pour mener les opérations de guerre. Qu'il y a Gabriel qui est auprès du Saint-Esprit pour envoyer des messages et des révélations. Et il y avait Lucifer qui devrait travailler pour la louange auprès du Fils. Lucifer a fait défection. Le Fils décide au ciel de descendre sur la terre pour venir régler l'affaire. J'ai perdu Lucifer. Je vais aller me faire des louangeurs, des adorateurs sur la terre. Et c'est ce qu'il est venu faire. Amen. Vous savez pourquoi je parle de ça? Parce que ce sont des choses tellement inhabituelles que nous n'avons pas besoin de compliquer une prédication. Mais si j'en parle, c'est pour que chacun de nous puisse comprendre jusqu'à quel point il est important, elle est importante dans la vision céleste de la vie. Il y a donc une guerre et nous sommes au centre de cette guerre. D'un côté, il y a Dieu et de l'autre, il y a Lucifer. Et nous nous retrouvons au milieu. Et Dieu qui respecte notre volonté, la seule chose que Dieu veut, c'est que tu puisses toujours choisir être avec Dieu. Il ne te forcera jamais. Il ne te force pas. Pour que le diable sache que ce n'est pas par dictature que nous servons Dieu, mais c'est un choix mûrement réfléchi et avec bonheur. En sorte que lorsque nous prions Dieu, ce n'est pas parce qu'il nous contraint, mais nous prions Dieu parce que nous l'aimons et lui nous a aimés le premier. Alors le diable veut rendre parce que nous avons choisi Dieu, nous avons choisi Jésus-Christ. Eh bien, vous n'avez pas besoin de provoquer le diable. Il va quand même vous attaquer parce qu'il vous considère comme son ennemi. C'est une équation très simple. L'ami de son ennemi est d'office son ennemi. Vous êtes ami de Jésus, lui est ennemi de Jésus, alors vous êtes ennemi de Jésus. Et il va vous attaquer et il vise principalement rendre votre journée amère. Rendre votre journée amère à la maison en famille. Rendre votre journée amère là-bas au travail. Rendre votre journée amère même parmi les frères et sœurs. Rendre votre journée amère même à la rue, dans les transports publics, partout où vous passez. Rendre votre journée amère dans les songes, partout où vous vous trouvez. Et pour cela, il ne manque pas de démons qui travaillent pour lui. La seule chose qui nous fait échapper un peu, c'est qu'il ne peut pas créer des démons. Si le diable était capable de créer des démons, il en créerait tellement qu'il n'y aurait plus où mettre les pieds sur la terre. Mais il ne peut pas créer. Donc il dépend de ceux qui ont quitté le ciel et qui sont avec lui. Bon pour lui, comme il ne meurt pas, ce sont des esprits. Sinon, il y a longtemps qu'il serait déjà seul. Alors il se sert de plusieurs esprits. Et je voudrais parler un peu de ces esprits. La première catégorie d'esprits que l'ennemi utilise, ce sont des esprits d'occultisme. Les esprits d'occultisme, ce sont des esprits qui amènent les hommes et les femmes à rendre la louange à quelqu'un d'autre qu'au Dieu vivant. À regarder vers quelqu'un d'autre qu'au Dieu vivant. Mais à qui regarde-t-il? Au fait Quand on dit regarder à quelqu'un d'autre, c'est à Satan qu'on regarde. Sauf que comme il sait qu'il est tellement moche qu'il n'y a personne qui aimerait le regarder, il se maquille. La Bible dit que parfois il se maquille en ange de lumière. Au point que quand tu le regardes, tu dis, oh, quel ange! Dès que tu as crié, quel ange, l'habit tombe, tu dis, oh, c'est le diable, et tu fouilles. Donc, c'est ce qui fait qu'il est malheureux, 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 parce qu'il n'a personne qui puisse véritablement l'adorer en le connaissant. En le connaissant. Alors, il mène, il provoque, il attire l'attention des hommes sur d'autres choses, sur d'autres doctrines. C'est pourquoi la doctrine du Père, du Fils et du Saint-Esprit, voilà le chemin que notre Dieu a placé devant nous. Et nous devons toujours nous attacher à eux, à lui, parce que trois en un, vous connaissez la mathématique de la Sainte Trinité, depuis l'époque de notre Père de l'Église Tertullien, qui avait réfléchi et qui a découvert que, oh, mais c'est trois dieux. Mais non, c'est un seul Dieu en trois. Et il avait de la peine à expliquer cela. Et pour toute l'humanité, nous avons de la peine à expliquer cela parce qu'ils sont tellement unis par le lien de l'amour que finalement, il est impossible de découvrir où se trouve l'un, où se trouve l'autre, tellement ils s'aiment. C'est pourquoi l'amour est très important dans la marche avec le Seigneur. Jésus n'a-t-il pas dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Mais comment nous a-t-il aimé? Il est allé prendre notre place à la crucifixion, à la mort, pour nous donner la victoire. La deuxième catégorie des esprits sont des esprits d'entrave. Les esprits d'entrave, ce sont des esprits qui vous empêchent de courir, qui vous empêche de produire ce que vous êtes capable de produire. Les esprits d'entrave sont des esprits de barrières. Ce sont des esprits de bâtons dans les roues. Ce sont des esprits qui bloquent, qui vous empêchent d'avancer, de réussir. Il y a des promesses certaines qui sont là. Et vous êtes qualifiés pour peut-être atteindre des objectifs. Mais vous ne pouvez pas les atteindre. Pourquoi? Parce que il y a des esprits d'entrave qui travaillent contre vous. Ils multiplient, lui, les diables et les embûches pour vous empêcher d'avancer, pour vous empêcher d'expérimenter les victoires que vous devez expérimenter. Il y a une parabole dans la Bible que vous connaissez très bien, la parabole du semeur. Vous vous souvenez, cet homme qui est sorti, ce semeur, qui est sorti, qui a commencé à jeter le grain dans le champ, mais sauf que tous les grains ne sont pas trop tombés à la bonne destination. Et il y a des grains, dit la Bible, qui sont tombés dans une sorte d'herbe, mais c'était une herbe épineuse. Et ces grains sont entrés dans la terre, ont commencé à pousser, mais ne pouvait pas s'épanouir parce qu'il y avait des épines qui ont commencé à percer le grain et le grain ne pouvait pas monter et produire le fruit. Et cette parabole était donnée pour parler des hommes et des femmes, plusieurs d'entre nous peut-être, qui ont des qualités, qui ont des visions, qui savent faire ce qu'il faut faire, qui devraient devenir grands, grandes dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais il y a des épines qui les empêchent de produire ce qu'ils devraient produire. Ils sont comme bloqués. Parfois des maladies inexpliquées s'emparent d'eux. Toutes sortes de problèmes arrivent. Il y a des gens qui sont destinés à être heureux dans leur famille. Mais il y a des querelles qu'ils ne maîtrisent pas, qui viennent on ne sait d'où. Ce sont des épines que le diable utilise pour bloquer, pour paralyser. Nous avons rencontré des familles, papa, maman, les enfants qui ne s'entendent pas, ils sont divisés. Il y a même des gens à l'intérieur d'une même famille, des sœurs qui ne se parlent plus, des sœurs qui ne parlent plus à leurs frères, des cousins qui ne se parlent plus, alors qu'ils sont de la même famille, alors que la famille est une bénédiction. Mais le diable s'est arrangé pour mettre la zizanie, installer des épines afin qu'ils ne puissent pas expérimenter le bonheur qu'il y a à vivre avec Dieu. La troisième catégorie des esprits, ce sont des esprits de perversion sexuelle. Les esprits de perversion sexuelle, ce sont des esprits qui veulent détruire la sexualité parmi les hommes. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Les esprits sexuels, leur vrai but, c'est quoi? Ce n'est pas tant d'empêcher qu'il y ait la sexualité parmi les hommes, puisque Dieu a créé les hommes avec une sexualité. Mais quel est le but des démons? Le but des démons, justement, et ça on ne se rend pas compte, c'est d'empêcher que les hommes expérimentent le plan de la sexualité tel que prévu par Dieu. Et alors, lorsque l'homme, la femme, va en dehors du mariage pour aller vivre sa sexualité, par la même occasion, il, elle, détruit la sexualité prévue par Dieu. En sorte que, lorsque le temps de se marier arrive, le mariage devient totalement impossible. L'entente dans le couple devient totalement impossible parce que cette entente, ce bonheur a déjà été détruit dans la tricherie vécue en dehors du plan de Dieu. Il y a des esprits qui travaillent, ils ont des noms, incubes, succubes. Ce sont des esprits qui donnent des envies, qui donnent des désirs, qui provoquent des rencontres et qui créent des liens que Dieu n'a pas créés, que Dieu n'a pas approuvés. Et tous ces liens travaillent pour la destruction des vies. Et laissez-moi vous dire, lorsque vous vous retrouvez dans ce genre de liens, vous aurez de la peine à vous en sortir. Parce que l'ennemi fera tout pour que vous vous sentiez incapable de sortir de là. Il multiplie les ficelles, les cordes, pour que vous soyez liés l'un à l'autre, pour vous empêcher de vous libérer. À cause de tout cela, la vie conjugale est détruite. La vie conjugale est détruite et brisée. C'est pourquoi vous verrez, autrement, comment expliquer que des hommes et des femmes qui sont mariés ne peuvent pas vivre heureux, sauf lorsqu'ils vivent en dehors de la volonté de Dieu, alors ils se sentent vraiment amoureux. C'est un piège. C'est une œuvre de Satan. C'est pour détruire la vie. Parce qu'il sait qu'aussi longtemps qu'ils vivent leur vie sexuelle en dehors du plan de Dieu, il n'y aura pas la bénédiction. Il n'y aura pas la bénédiction pour la vie et il n'y aura pas la bénédiction pour la descendance. Et c'est pourquoi le lien qui commence avec un père se succède ou se poursuit jusqu'aux descendants. Lisons dans la Bible et vous vous souviendrez. Certains pensent que Isaïe, le père de David, l'aurait eu probablement avec une autre femme. Il n'y a pas de preuve, mais le langage de cet homme surprend. Lorsque Samuel arrive pour oindre un roi parmi ses enfants, il touche le premier, Dieu lui dit c'est pas lui. Deuxième, pas lui. Troisième, pas lui. Et puis il arrive jusqu'à la fin. Et il demande à Isaïe, n'y a-t-il plus un autre fils? La réponse d'Isaïe est surprenante. Il dit, non, mais il y a quelqu'un, un fils qui est au champ. Non, mais, non. Mais s'il y a un fils, on dit oui. Oui, il y en a un qui reste. Il est au champ. Mais non, non, mais, pourquoi non, mais? Alors tout le monde sait que souvent quand on dit non, mais, c'est qu'il y a un problème. Alors certains théologiens ont conclu, ah, il y a eu un problème là-bas. Où a-t-il eu David? Ne l'a-t-il pas eu avec une autre femme? On passe. David grandit. Et nous savons ce qui est arrivé avec Bathsheba. Ah! Les enfants de Dieu grandissent, les enfants de David grandissent, et nous savons ce qui s'est passé avec ses enfants. Un demi-frère qui va avec la demi-sœur, et il y a une guerre qui entre parmi les enfants qui se sont donné la mort. Le lien des esprits de perversion. Ces esprits de perversion sont en train de se répandre dans le monde entier. Aujourd'hui, on parle même de lois qui vont être votées au niveau des Nations Unies pour décréter la liberté sexuelle sur la face de la terre. C'est-à-dire que la liberté sexuelle ne soit plus jamais un délit, ni un problème. Que les gens, les hommes soient libres de vivre comme ils veulent. On est même prêt à descendre plus bas. On est prêt à voter pour qu'une fille de 10 ans qui lui soit autorisée de se marier. La perversion diabolique est en train de gagner la terre entière. C'est pourquoi vous rencontrerez des mamans magnifiques quand vous les regardez et qui ont 4 beaux enfants, mais chaque enfant a son père. Ça montre la preuve de la perversion. Et l'ennemi gagne du terrain parce que la porte lui est ouverte. Les esprits d'infirmité, ce sont là les esprits quotidiens également qui travaillent dur. Quand j'entends parler des gens qui souffrent au niveau de leurs jambes, des gens qui souffrent au dos, des gens qui souffrent pour tourner leur cou, des gens qui souffrent de la tête, des gens qui ne peuvent pas voir comme ils devraient voir, des gens qui ne peuvent pas utiliser leurs bras, et ainsi de suite. Toutes sortes de douleurs, ce sont des esprits d'infirmité. Pour mettre le gène, pour t'attacher un boulet quand tu veux marcher, eh ben, c'est comme si tu traînais quelque chose. Ce sont des esprits quotidiens qui font des dégâts aux enfants de Dieu. Les esprits d'infirmité. Et puis viennent les esprits de tourment. Ça, c'est pour empêcher la joie. Parce que la Bible ordonne d'être joyeux, mais il ne faut pas que les enfants de Dieu soient joyeux. Le diable travaille pour que nos mines soient les plus tristes possibles. Et pour cela, il provoque par des esprits de tourment. Pour nous tourmenter. Pour avoir des nuits agitées. Tu te réveilles malheureux. Tu téléphones avec joie à ton ami, mais quand le téléphone, le coup de fil se termine, vous êtes triste parce que la joie que vous avez espéré trouver dans votre communication se termine par le chagrin, les esprits de tourment qui mettent la confusion, qui mettent l'incompréhension, qui créent des idées. Parfois tu parles et puis une idée te visite et tu te dis c'est une idée innocente, mais dès que tu la sors, en réalité, c'est une allumette qui allume le feu dans les relations. Les esprits de tourment, pour tourmenter. En réalité, c'est ce qu'il ira vivre en enfer. Mais le diable, parce qu'il se venge contre nous, il veut que nous puissions subir les tourments avant même la mort. Afin que nous soyons malheureux, que nous soyons tristes. L'esprit de tourment, vous ne pouvez vous imaginer toutes les peines qui se passent dans ce monde. Je viens de la République démocratique du Congo depuis 1980 pour que vous puissiez comprendre l'ampleur du calvaire de ce peuple-là. Depuis 1980, une crise incomparable, une famine qu'on a vue nulle part au monde s'est abattue sur toute une nation. Savez-vous qu'en République démocratique du Congo, dans une maison, dans une famille, on mange à tour de rôle? Aujourd'hui, c'est le père et ses fils qui mangent. Demain, c'est la mère et ses filles. Et ainsi de suite, on mange tous les 2 jours un repas. Ça se passe là-bas. Et dans l'entretemps, ceux qui gouvernent versent des tonnes et des tonnes de béton sur les routes pour créer des boulevards comme en Chine, avec leurs amis chinois. Et ils annoncent à tous ceux qui veulent les écouter, notre économie est en train de progresser. Nous risquons de devenir la première économie du continent noir, du continent africain. Alors que le peuple est en train de mourir. Le taux de chômage, retenez ceci, est à 90% de la population. Le taux de chômage, ce sont des chiffres des scientifiques. Je ne suis pas un homme de la rue pour raconter des chiffres qui n'existent pas. C'est pour dire jusqu'à quel point la situation est catastrophique. Mais qui est derrière tout cela? Ce sont des esprits méchants qui utilisent la méchanceté des hommes pour rendre la vie impossible à tous les autres. Et vous savez vous-même jusqu'à quel point l'ennemi, si tout lui était permis, serait capable de jeter la mort parmi nous tous. n'y a pas longtemps, vous avez vécu toutes sortes de peines ici à Paris. Et Bruxelles n'était pas épargnée. Pour dire jusqu'à quel point l'homme est détesté par quelqu'un. Le diable le déteste et veut le détruire. Et c'est très important de comprendre cela. Ce n'est pas pour que nous puissions perdre notre joie, mais pour que nous puissions peser les raisons pour lesquelles nous devons nous accrocher à ce Dieu qui nous aime tant et qui est plus fort que celui qui est dans le monde. Les esprits de suicide, se voilà un autre esprit. Les esprits de suicide sont des esprits qui, au fait, rendent la vie tellement amère que tu as l'impression que pour t'en sortir, il faut te donner la mort à toi-même. Combien de gens ont regardé depuis leur étage par la fenêtre et se sont dit, mais avec tout ce que je suis en train de vivre, autant ouvrir la fenêtre et puis me jeter dehors, comme ça on n'en parle plus. Comme si on mourait comme des bêtes, comme des chèvres. Non! On ne meurt pas comme ça. La vie que nous avons ne meurt pas. Elle est éternelle. Et c'est très important de comprendre cela. Vous savez, pendant longtemps, nous ne dépendions que de ce que dit la Bible et de quelques témoignages. Mais aujourd'hui, la science s'en est mêlée. C'est scientifique que lorsque quelqu'un meurt, il est conscient. Je dis bien, c'est scientifique. Il y a deux témoignages qui venaient d'arriver, papa Marcelin. Le premier témoignage vient de se passer pas loin d'ici, en Allemagne. Ils ont créé des sortes d'infrarouges, très très puissants. Et ils ont commencé, il y a quelqu'un qui a fait cette découverte, qui a dit, mais c'est bizarre, quand j'observe une personne qui est en train de mourir, qui est en train de rendre l'âme, je vois la sortie d'un flux qui a la forme de la personne qui reste sur le lit. Si c'était simplement le son, comme un peu du vent, l'air qui sort pour expirer, pour mourir, on comprendrait. Mais il a dit, l'air qui sort, les gaz qui se dégagent de la personne qui meurt, a la même image que la personne qui reste. Et on a commencé à regarder, vous savez, avec les photos, comme dans un film, les pellicules de films, et ils ont commencé à photographier cela. Effectivement, ils pouvaient sentir l'être qui est couché et qui se redresse alors qu'il reste couché, mais on sent sa lueur qui s'élève et qui s'envole et qui s'en va. On vit. On vit après la mort. Je l'ai vécu parce que je l'ai vu. J'ai souffert d'une maladie qu'on appelle apnée de sommeil, c'est-à-dire vous oubliez de respirer, vous oubliez de réfléchir, vous oubliez tout ce qu'il y a dans la tête. C'était une situation catastrophique. Et c'était déclaré sévère en l'an 2000. J'avais 6 mois à vivre. Nous sommes en 2016, c'est nettement mieux, non? C'était une situation dramatique. Nous avons fait venir un appareil à la maison qu'on appelle pression positive. Et on a installé, quand je devrais dormir, on a installé tout un tas de trucs. Alors, je mets les boutons et quand je respire, je... Au fait, la chambre était devenue comme une usine. Et Emilie, un jour, me pose la question, c'est comme ça que nous allons vivre toute la vie? Elle m'a interpellé. J'ai regardé au ciel, j'ai dit, Seigneur, j'aimerais bien te servir. Mais si c'est pour me prendre, alors passe à l'action. Je ne prendrai plus cet appareil. Je suis allé le remettre et petit à petit, le Seigneur a fait ce qu'il a fait. Et me voici debout. Mais un jour, alors que Dieu est en train de me guérir, un jour... J'ai déjà remis l'appareil qui ne m'aidait plus. On m'avait prévenu que le cœur pourrait s'arrêter à tout moment. Et effectivement, pendant que je dormais, le cœur s'est arrêté. Et comme le cerveau ne fonctionnait pas, et donc le cœur a oublié de respirer, de battre, et je me suis vu debout. je ne sentais pas le plancher au-dessous, en dessous de mes pieds. Mais j'étais debout et j'ai vu un autre moi couché sur le lit. Comme ça. Et j'ai réfléchi, j'ai dit, ça c'est la mort. Ça c'est la mort. Et j'ai crié, mais aucun son ne sortait. Mais j'ai réuni tout mon esprit. Rentre! Et je me suis réveillé. J'étais fatigué tout le corps. Au moins, j'ai retenu une chose. Quand tu es mort, tu vis. Quand tu es mort, tu vis. Alors, pourquoi j'en parle? C'est à cause de ceux qui veulent se donner la mort parce qu'ils en ont marre avec la vie. Alors voici ce que vous faites. Quand vous voulez vous donner la mort, cela veut dire vous êtes assassin. Mais vous ne tuez pas Albert, vous vous tuez vous-même. Vous êtes assassin. Ça ne fait aucune différence entre celui qui tue un autre et celui qui tue soi-même. Tu ne tueras point, dit l'Éternel. Donc tu ne dois pas tuer quelqu'un d'autre et tu ne dois pas tuer toi parce que tu ne t'appartiens pas. Et donc si tu te tues toi-même, tu vas entrer dans l'éternité avec pour jugement d'un meurtrier. Un suicidaire, c'est un meurtrier. Nous sommes peuple de Dieu. Nous n'avons pas besoin des gens du monde pour nous enseigner les lois de notre Dieu. C'est nous qui devons les comprendre. C'est pourquoi je vous exhorte au nom de Jésus-Christ. Toute idée de suicide, n'osez pas. Parce que vous toucherez à l'être créé à l'image de Dieu que vous êtes. Enfin, les esprits humains. Au jour d'aujourd'hui, avec la pratique de la délivrance, nous avons de plus en plus de convictions. Surtout en priant avec les gens un peu partout, nous avons de plus en plus de convictions comment les attaques viennent dans les corps. L'esprit de mort attaque la tête, les pointes de doigts et les orteils de pied. Esprit de Satan lui-même nous attaque au niveau de là. De votre bras. C'est là qu'il attaque. L'esprit de tourment qui provoque le stress et toutes sortes de douleurs attaque au niveau du thorax, au niveau du cœur et des poumons et du pancréas. L'esprit sexuel attaque le dessous de du nombril. L'esprit de sorcellerie attaque les yeux et les oreilles. Et c'est pourquoi lorsque vous attaquez un esprit de sorcellerie, vous devez toucher les yeux et les oreilles, les doigts, et vous briser au nom puissant de Jésus-Christ. L'esprit de servitude, c'est-à-dire que vous êtes envoûté profondément et vous êtes esclave des gens dans tout ce que vous faites, attaque au niveau des chevilles. Comme les boucles. C'est pourquoi, bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez comprendre que les choses qui se sont passées dans l'histoire concernant la persécution par l'esclavage étaient des choses qui sortaient toutes droites de l'enfer. C'était des attaques de Satan. Et c'est pourquoi on pouvait mettre des câbles au niveau des chevilles, comme pour symboliser que ces gens n'ont plus de volonté. Non plus de nom. Ils vont vivre pour les autres, faisant la volonté des autres toute leur vie durant. Vous vous imaginez? Et alors enfin, les esprits humains, c'est-à-dire les hommes, lorsqu'ils vous détestent, ils le font sous la guidance, sous l'aide, sous la direction des démons. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui est sorcier, qui attaque, c'est un esprit humain, mais il y en a un autre qui n'est pas sorcier, mais parce qu'il a rempli son cœur de haine, l'esprit du mal, l'esprit humain est incarné maintenant avec la force démoniaque pour attaquer. Et ces attaques viennent au niveau des genoux. Quand vous avez mal à vos genoux, dites-vous, il y a des esprits humains qui sont en train de vous attaquer. Il y a tout un petit livre qui va sortir bientôt. Nous avons travaillé avec d'autres serviteurs et servantes qui travaillent dans le domaine de délivrance pour arriver à cette conclusion qu'il y a des parties de nos corps qui sont attaquées. Mais il y a une chose que j'aime beaucoup, c'est que Dieu a prévu la délivrance. Et j'ai ici quelques conseils à partager pour que vous puissiez bénéficier de votre délivrance qui est déjà disponible. Alléluia. Voici la première vérité que nous retenons. Nous la trouvons chez les Juifs. Que se passe-t-il chez les Juifs? Lorsqu'un homme venait chez le sacrificateur pour obtenir la délivrance de ses péchés, il amenait un mouton, appelé communément un agneau sans défaut. Il amenait donc le mouton. Il arrive chez le sacrificateur et le sacrificateur se lève, va examiner non pas l'homme ou la femme qui amène le mouton, mais il va examiner quoi? Le mouton. Il va regarder si ce mouton est propre au sacrifice. Et quand il n'y avait aucun défaut, pas d'infirmité, cela veut dire que l'agneau était conforme à la volonté de Dieu pour être à la base de la délivrance de la personne. Alors, le sacrificateur demandait au porteur du mouton, viens placer vos deux mains sur la tête du mouton. Et lorsqu'il plaçait les deux mains sur la tête du mouton, tous ses péchés entraient dans le mouton. Et en ce moment-là, le sacrificateur prenait un couteau très tranchant et il coupait la gorge du mouton. Et le sang qui jaillissait du mouton couvrait le péché des Juifs. Et l'apôtre Paul, qui est notre professeur à nous tous de la religion, dit quoi? Il dit, ce qui s'est passé à cette époque-là était la lueur des choses à venir. Et aujourd'hui, l'agneau sans défaut, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus, quand il vient, il dit, je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il parlait aux Juifs. Et les Juifs ont très bien compris. Parce que c'était leur pratique de tous les temps. Du Yom Kippour, c'était leur pratique. Et quand il dit, je suis l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, en d'autres termes, vous devez placer vos mains sur moi, Jésus. Et tous vos péchés vont entrer en moi. Et quand je vais mourir sur la croix, mon sang qui va couler va non pas couvrir comme chez les Juifs, mais va ôter. Le verbe change. Pour le sang qui coule d'un mouton, il couvre les péchés. C'est-à-dire, ce sont des péchés qui sont encore là. Il faut renouveler. C'est pendant une année que tu as le pardon. C'était par délai. Un abonnement d'un an. Un abonnement spirituel. Pour une année, tu as le pardon. Donc, il n'y aura pas de conséquences pour les péchés que tu as commis aussi longtemps qu'un mouton a été coupé. Et puis l'année prochaine, il faut renouveler le mouton. Parce que si tu ne renouvelles pas le mouton, la malédiction de tes anciens péchés et les nouveaux péchés, ça va être dramatique. Mais les choses changent avec la venue de Jésus-Christ. Amen. Quand nous posons les mains, non pas les mains, ces mains-là, mais c'est les mains de la foi, les mains du cœur. Seigneur, je crois totalement en toi. Amen. Et alors, tous nos péchés entrent en lui. Et quand il est crucifié, nos péchés sont ôtés et tombés sur lui. Et qu'est-ce qui sort de lui? C'est sa justice qui tombe sur nous. Et alors, nous sortons de là avec la faveur divine, bénie pour toujours. Ça, c'est le fondement
de la délivrance. Il faut que quand le diable vient attaquer, qu'il trouve en vous un cœur totalement reposé sur Jésus-Christ qui a été crucifié à votre place. C'est pourquoi la Bible dit, nous avons été crucifiés avec Christ. Avec Christ. Quand Jésus était en train d'être crucifié à la croix, nous étions avec lui. Parce que lui n'a commis aucun péché. Lui n'était coupable de rien. Mais nous étions crucifiés là-bas avec lui. Et lorsque nous plaçons non plus nos mains, mais notre cœur totalement sur lui. Vous savez, la foi fonctionne presque dans tous les domaines. La foi fonctionne partout. Si vous êtes chauffeur, vous avez beaucoup de foi. Chauffeur de voiture. Parce que vous devez croire que tous les autres qui viennent là-devant ne vont pas se jeter devant vous pour vous écraser. Parfois même, c'est à peine 30 centimètres qui vous fait croiser quelqu'un. Il faut beaucoup de foi. Vous êtes assis sur une chaise. Vous êtes sûr que cette chaise va vous tenir, qu'elle ne va pas s'écrouler, vous allez tomber par terre. Il faut beaucoup de foi pour s'asseoir sur une chaise. Il faut beaucoup de foi pour entrer dans un avion. Il faut beaucoup de foi partout. Et la foi, c'est celle-là que nous devons placer sur Jésus. Je crois qu'il est mon sauveur au siècle des siècles. Et je ne chercherai plus personne d'autre. C'est la raison pour laquelle nous ne faisons pas de fil chez les marabouts. Parce que nous n'en avons plus besoin. Amen. Jésus-Christ a pris notre place à la croix. Et lorsque nous croyons en lui, sa justice tombe sur nous. C'est sur cette base que le Père nous exauce. Un jour, le Père a dit quoi? Lorsque Jésus se faisait baptiser, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Eh bien, ce qu'il dit de son fils, c'est ce qu'il dit de nous dès l'instant où nous croyons en Jésus-Christ. Nous devenons ses fils et ses filles bien-aimées en qui il place toute son affection. Alors, il combat pour nous. Alors, il met ses anges à notre service. Alors, nous sommes en sécurité. Alors, nous n'avons plus rien à redouter. Nous n'avons pas à trembler. Quand bien même le monde entier se mettrait à trembler, qu'il y aurait des pétards partout, nous ne devons pas trembler parce que nous savons que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes sécurisés et nous sommes protégés. Et Dieu combat pour nous. Vous souvenez-vous de certains accidents que vous avez connus? C'est incroyable, n'est-ce pas, que vous puissiez sortir de là vivant. Un jour, nous étions en train de mourir au-dessus de Dallas. On était dans un petit avion. Et à un moment donné, nous sommes entrés. Vraisemblablement, les pilotes n'avaient pas, quand on a annoncé que le ciel de Dallas était fermé parce que les intempéries étaient impossibles. Malheureusement, les pilotes étaient déjà entrés dans l'espace aérien de Dallas. Et nous sommes entrés en plein tourbillon. On ne voyait plus rien. Et nous étions sans savoir où nous allions. Et à un moment donné, le pilote nous dit, time is very hard. I can't say what is going to happen. Je ne peux pas dire qu'est-ce qui va nous arriver. Quand vous entendez un pilote, d'ordinaire, ces gens-là sont très positifs. Mais quand vous entendez un pilote vous dire une telle chose, les Américains ont compris. J'ai entendu des hommes et des femmes pleurer. À un moment donné, l'avion a perdu près de 15 à 20 mètres d'altitude en un instant. Ouh, tout le monde... Et là où j'étais avec... mon silence, j'ai hurlé, Jésus! Et les voisins qui étaient autour de moi, are you a Christian? Êtes-vous chrétien?
J'ai dit à Jésus, voilà, tu me dévoiles. Nous n'aimons pas être dévoilés, n'est-ce pas? On aime s'asseoir calmement, comme inaperçu. Hélas. Amen. Nous sommes allés atterrir en Louisiane. Heureusement qu'il y avait assez de carburant pour sortir de là, pour aller atterrir ailleurs. Les dangers sont là, mais Jésus est avec nous. Et il contrôle toutes choses. Vous savez ce que j'aime quand vous êtes avec Jésus? Vous n'allez plus mourir sur la base des volontés de l'homme. Vous n'allez plus mourir sur la base des volontés des démons. Vous n'allez plus mourir sur la base des volontés du diable. Vous n'allez plus mourir sur la base des volontés d'un djihadiste. Vous allez mourir sur la seule base de la volonté et du plan de Dieu pour votre vie. Le deuxième conseil, savoir que Dieu nous a donné le pouvoir de lier et de délier. Lier et de délier. Lier veut dire stopper, bloquer, mettre un terme. Quand vous voyez dans la famille, il y a quelque chose qui est en train de se perpétuer, alors, et que vous ne voulez pas, lier. Diable, tu es lié au nom puissant de Jésus-Christ. Ça ne va plus continuer. C'est terminé maintenant. Amen. Vous savez, il y a parfois des chefs dans l'entreprise que le diable porte comme un manteau. Et tout à coup, ils deviennent méchants et dangereux. Liez-le. Au nom puissant de Jésus. Ne le faites pas devant eux. Non, allez à la toilette, fermez, et puis vous liez au nom puissant de Jésus. Vous liez au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voulez vous marier, vous êtes fiancé à un homme dont la famille ne veut pas de vous, chère sœur. Eh bien, il faut délier cet homme. Délier-le de la volonté de ses parents. Et vous verrez, il devient fou d'amour. Il dit, écoutez, qu'ils acceptent ou qu'ils n'acceptent pas. Écoutez, quand vous êtes marié, qui a décidé pour vous? Oh, personne. Alors, pourquoi vous parlez contre moi? Eh bien, moi, je l'épouse. D'accord ou pas d'accord? Vous verrez tous les membres de famille. D'accord. 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 Vous pouvez lier et vous pouvez délier. Vous pouvez lier. Et ce qui est intéressant dans cette promesse, c'est quoi? C'est que la Bible dit, c'est que vous lierez. Donc, le début, c'est sur la terre. Alors que d'ordinaire, le début, c'est au ciel. Parce que c'est lui le patron. Mais pour ces cas-là, c'est sur la terre. Ce que vous lierez sur la terre, en second lieu, sera lié dans les cieux. Donc Dieu nous donne le pouvoir de lier et de délier. Quel bonheur! C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent savoir quels sont leurs droits. Amen. C'est très important. Troisième conseil, l'avant-dernier. L'ultime clé pour vaincre Satan, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus a utilisé la parole de Dieu au désert. Si c'était la prière, Jésus, quand le diable s'est mis à le tenter au désert, Jésus allait se mettre à genoux et se mettre à prier. Mon Père Céleste, je te prie de me protéger du diable. Il est là, juste à côté. J'entends même les bruits. Seigneur, protège-moi. Non. Qu'est-ce qu'il a dit au diable? Il est écrit. Amen. Hein? Ça, c'est la parole de Dieu. Il est écrit. Il est écrit. Quand tu sens l'attaque, ne commence pas à te plaindre. Tu téléphones. Ah, mais tu sais, cette nuit, je n'ai pas dormi. Je sentais ma jambe bouger sans que je la bouge. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut parler selon la parole de Dieu. Amen. Hein? Satan, tu n'as pas accès à ma vie. Car j'appartiens à Jésus-Christ. Je ne suis pas un produit à vendre. Vous savez, quand c'est un produit à vendre, n'importe qui peut acheter. Mais nous, on n'est pas à vendre. Nous appartenons à Jésus-Christ.
La Bible dit qu'il a offert, il nous a offert à son Père comme un royaume de sacrificateurs. Nous sommes des sacrificateurs pour Dieu son Père. Et donc nous ne sommes pas à vendre. Amen. On n'est pas à vendre. On n'est pas à vendre. On n'est pas à vendre. Dites au diable qu'on n'est pas à vendre. On n'est pas à vendre. C'est fini ça. Oui. Et enfin, la foi. La foi. Résister par la foi. La foi s'exprime comment? La foi tire sa source dans la parole de Dieu et s'entretient par la prière. Notez bien. La parole de Dieu donne à la foi sa matière, son produit. C'est pourquoi la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la foi tire son existence de la parole de Dieu. Et maintenant la prière est là pour entretenir, pour réchauffer. C'est comme une nourriture qui était au frigo. Vous pouvez pas manger ça comme ça. Sinon vous n'allez pas faire l'expérience de l'aspect délicieux de ce repas. Ça perd la saveur. Il faut réchauffer. Certains utilisent le four à micro-ondes. Moi pas. J'utilise d'autres chaleurs. Il faut réchauffer. Eh bien, la prière réchauffe la foi. Il faut toujours avoir une foi fonctionnelle, une foi active, une foi qui est actuelle, actualisée, une foi renouvelée. Quand vous croisez un frère, posez-lui la question, ta foi est-elle au frigo ou est-elle actuelle? Et s'il a prié, il te dira, ma foi est actuelle. Amen. Et avec la foi, nous avons l'autorité. Amen. C'est par la foi que nous chassons les démons. C'est par la foi que nous pouvons dire aux démons, c'est fini maintenant. Et j'aime beaucoup l'interaction. Quand tu as la foi, les hommes de Dieu ont la foi. Lorsque vous priez, il y a des effets incalculables qui arrivent. Et lorsque vous êtes en train de prier pour chasser un démon, vous avez l'impression que vous allez tomber. Ne vous en faites pas, ce n'est pas vous qui tombez. Vous savez très bien comment fonctionne le corps humain. Le corps humain est comme une mécanique. C'est le cerveau qui dit à la jambe, maintenant fléchis-toi car il faut tomber. Mais quand tu n'as rien décidé là-bas, mais que tu te mets quand même à tomber, c'est que cette tombée-là vient de quelque part ailleurs. Cela veut dire que ça appartient non pas à toi, mais à quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui est en train de tomber en toi. Ça doit plutôt être une bonne nouvelle. Vous dites, ah, il est en train de tomber, c'est fini, c'est le bon moment. Alors tu l'envoies dehors. Le jeudi, une maman est venue de loin, a pris le train jusque chez nous à l'église, à mon bureau. Je l'ai rencontrée et elle a raconté son histoire. C'était une histoire qui ne mérite pas d'être répétée au micro d'une église. C'était une abomination. Le diable l'a eu et l'étouffe et sur le point de l'achever. Et moi, j'étais fatigué. Il était 14 heures. Je somnolais. J'étais fatigué. Et puis, j'ai dit, ah, je vais remettre cette prière à plus tard parce que je ne me sens pas bien. Je lui ai dit, madame, je pense que vous reviendrez ici, comme ça je prierai pour vous la fois prochaine. Elle m'a dit, papa pasteur, je ne reviendrai plus. Et pourquoi? C'est aujourd'hui que je veux que ça s'arrête. Sa foi était renouvelée. Et sa foi qui était chaude a communiqué la chaleur à ma foi. J'ai dit, ah bon? Alors on va prier. Je m'en fous du sommeil. Et je lui ai dit, maintenant, sois attentive. Quand nous serons en train de prier, lorsque tu sens que tu es sur le point de tomber, ce n'est pas toi qui tombes. C'est quelqu'un d'autre qui tombe en toi. Qu'est-ce que tu dois faire? Il faut immédiatement tousser pour qu'il sorte. Parce que, au fait, le démon en hébreu veut dire ruha. Et ruha veut dire le vent. Et donc les démons procèdent par le vent. C'est pourquoi lorsque vous toussez, ce n'est pas non, il faut être sec. Donc c'est comme tu les surprends. C'est comme quelqu'un qui se tient là et puis il ne sait pas, puis tout à coup il est déjà par terre sans qu'il se rende compte. Donc c'est comme ça, le démon est là, il est en train de tomber, il continue à profiter de ton corps pour tomber et toi il s'en va. Il se retrouve par terre et puis il ne sait plus revenir parce que la puissance qui le chasse est une puissance supérieure à sa puissance. Et il ne peut plus revenir. Je lui ai enseigné ces choses. Au début, elle a commencé à tousser comme un chien qui aboie. J'ai dit non, c'est pas comme ça. Il faut comme le rafale d'un Kalachnikov. Donc, il faut que tu les fais partir au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et qu'est-ce qui va arriver? Il sort. Amen. Et on n'en parle plus. Quand tu rentres à la maison, tu te sens paisible. Et voilà ce que Dieu est prêt à faire.